Ce matin, nous poursuivons la série de l'été dans l'Évangile de Jean qui nous permet d'approfondir notre connaissance de Jésus parce que ça s'intitule « Découvrir Jésus » ou « Redécouvrir ». Et il y a deux semaines, dans mon message qui s'intitulait « Comment approfondir ta relation avec Jésus ». D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter, ceux qui ne l'ont pas fait, parce que c'est vraiment complémentaire avec le message d'aujourd'hui. Mais j'ai utilisé l'illustration, pour ceux qui se rappellent, d'un ascenseur dans lequel Jésus nous invitait à entrer avec lui pour descendre les niveaux jusqu'au dernier stationnement, le niveau stationnement P3, disons, pour approfondir de plus en plus notre relation avec lui. Et j'avais trouvé une vidéo que je voulais vous montrer pour introduire l'image de l'ascenseur d'une façon un peu humoristique, mais j'ai dû couper certaines parties de mon message pour que ce soit pas trop long, mais c'est ce matin que ça va se passer, OK? C'est ce matin que ça se passe parce que vous allez comprendre pourquoi, OK? Maintenant, j'ai décidé de vous présenter cette vidéo. Cette vidéo, en fait, c'est une expérimentation qui a été faite dans les années 60 qui illustre ce que la pression sociale peut nous amener à faire, OK? Et cette expérience-là, ça se déroule dans un ascenseur. Et vous allez voir un cobaye, en fait, rentrer dans un ascenseur et le reste des gens, en fait, font partie de l'expérimentation. Donc, il y a seulement un seul cobaye qui est dans l'ascenseur et le reste, c'est des acteurs, finalement. Et on va voir ensemble comment le cobaye se comporte face à la pression du groupe. Alors, c'est parti, on regarde ça ensemble.
The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, three of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use... Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice, they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch.
Wow, c'est extraordinaire. OK, le dernier est vraiment de la difficulté à gérer la pression sociale. On s'entend quand même intense. Mais avouez, là, tu sais, quand on rentre dans un ascenseur, on se met toujours dos à, ben, face à l'entrée. Là, quelqu'un qui arrive puis qui te regarde, c'est comme, non, j'ai pas de plaisir, là. C'est pas plaisant du tout. C'est vraiment malaisant. Donc, je pouvais pas trouver une meilleure image pour commencer ce message avec justement un clin d'œil à notre dernier message et cette illustration que la pression sociale peut nous pousser à faire parce que le titre de mon message ce matin, c'est comment supporter la pression sociale. Dans le monde, il y a des multitudes de voix qui s'élèvent pour t'influencer et essayer de te dire, en fait, comment tu devrais agir. La société qui te dit de regarder dans telle ou telle direction, comme nos amis dans l'ascenseur, comme ta famille aussi veut t'influencer, tes amis, les célébrités sur Instagram, TikTok, la mode, les partis politiques et Satan aussi. Et toutes ces voix font pression, en fait, sur toi. Et elles crient, en fait, pour que tu leur obéisses. Et la vidéo nous montre à quel point la pression sociale qui est exercée sur nous peut nous faire faire des choses, en fait, qui n'ont pas de sens. Et une des personnes, si ce n'est pas la personne qui a vécu les plus grandes pressions, en fait, sociales, c'est Jésus. Jésus a été tenté par Satan dans le désert. Jésus a été pressé par ses disciples, par sa mère, sa famille, par sa chair aussi. Il a vécu, il a été tenté en toutes choses. Donc, lui aussi, il vivait des combats intérieurs. Jésus vivait de la pression de la part des autorités religieuses qui menaçaient sa vie, de la part des Romains aussi, de la part des gens qui souffraient, de la part des foules qui voulaient toujours plus de miracles. Jésus était pressé de partout. Mais pourtant, Jésus n'obéissait qu'à une seule voix, celle de son Père. Et tu te sens peut-être bombardé ce matin par toutes les voix que tu entends et qui font pression sur toi, l'actualité, ta famille, tes amis, la société, les réseaux sociaux. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a une solution pour discerner la vérité à travers tout ce vacarme et faire la volonté de Dieu. Et la solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Je veux t'amener dans les prochaines minutes à regarder à lui pour savoir comment est-ce que tu peux supporter la pression sociale. D'abord, prions ensemble avant de se plonger dans notre texte. Seigneur, je te prie pour ton esprit ce matin. Viens nous remplir du fruit de ton esprit alors qu'on ouvre ta parole, Seigneur. On veut avoir des cœurs ouverts pour comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Je crois que tu as une parole spécifique pour plusieurs d'entre nous ce matin. Alors, on veut être à l'écoute de ce que tu veux nous dire alors qu'on se prosterne devant toi, Seigneur, par notre corps et notre esprit. Amen.
Amen.
Le texte que nous allons étudier ensemble, en fait, c'est vraiment le chapitre 7 de l'Évangile de Jean. Donc, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner là-dedans. On va vraiment se promener à travers le chapitre 7. Et en fait, ça met, parce qu'il met en fait en scène beaucoup de personnes qui font pression sur Jésus. Mais avant de regarder notre passage, donc chapitre 7, je veux vous donner un petit peu le contexte pour arriver à mieux comprendre. Au début de son ministère, Jésus a œuvré beaucoup dans la région de la Galilée, dans le nord de la Palestine. Si on regarde la carte, ça va nous aider à mieux comprendre. Et c'est la région, en fait, où Jésus a vécu son enfance. Donc, Jésus a vécu son enfance à Nazareth, comme on voit ici en haut. Mais quand il y avait des fêtes, les Juifs se rendaient à Jérusalem, comme vous savez peut-être, pour célébrer ensemble au temple. Et c'est ce que Jésus faisait, parce que Jésus était juif, donc il était vraiment dans sa culture. Et lors d'une de ses visites à Jérusalem, comme au chapitre 5, donc avant notre passage, Jésus va guérir un paralytique à la piscine de Bethesda. Peut-être que vous avez déjà lu cette histoire. Et c'était un jour de sabbat. Et ce miracle va causer comme tout un scandale de la part des autorités religieuses juives, parce qu'en fait, il avait fait ça le jour d'un sabbat. Un sabbat. Le simple fait, en fait, de ramasser quelque chose, ça faisait en sorte que tu avais comme violé la loi du sabbat à cette époque-là. Donc, Jésus qui guérit un paralytique et qui lui demande en plus de ramasser son matelas, son lit, et de marcher. C'était vraiment comme un scandale, tellement que à ce moment-là, ils ont commencé à vouloir le tuer, carrément. Okay, c'est dans ce contexte-là qu'on doit lire le chapitre 7 qui commence comme ça. Jésus, donc, continua de parcourir, bien, vous le verrez, vous l'avez vu tantôt, de parcourir la Galilée plus au nord. Il ne voulait pas séjourner en Judée, donc plus au sud, vers Jérusalem, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Et quand Jean parle de Juifs ici, il parle vraiment des ici et dans la majorité de son évangile, c'est vraiment les autorités religieuses juives qui sont en Judée, donc Jérusalem et autour. Donc ici, on a un premier groupe qui fait pression, une pas pire pression, on s'entend, ils veulent le tuer. Donc, on a notre premier groupe ici qui font une pression sur Jésus. Verset 2. Or, la fête juive des tentes était proche, donc une autre fête qui se déroule à Jérusalem. Et là, ses frères vont lui dire, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » Deuxième groupe qui fait pression sur Jésus ici, qui cherche à l'influencer une autre voie, c'est ses frères qui veulent que Jésus aille à Jérusalem pour se donner, en guillemets, en spectacle. À l'époque, il y a eu plusieurs prophètes hein, qui se disaient messie finalement. Donc, c'est des choses que les gens connaissaient. Ils faisaient leurs petites affaires, ils attiraient les foules et tout. Donc, les frères de Jésus voient la même chose en Jésus finalement et lui disent de faire ça. Mais voici la réponse de Jésus au verset 8. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères, juste le verset tout de suite après, lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, mais non pas en se montrant, mais comme en secret. En résumé, Jésus refuse d'aller à Jérusalem, comme ses frères lui disaient, en fait, d'y aller pour faire un show-off, mais il va finalement quand même s'y rendre, mais d'une façon discrète. Et dans le reste du chapitre, qui se déroule justement à Jérusalem durant la fête, on voit toutes les autres pressions sociales aussi qui sont exercées sur Jésus. Verset 12. Dans la foule, imaginez la foule, Jésus est là, il enseigne. Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, au contraire, il égare le peuple. Verset 32. Les pharisiens, donc les religieux juifs, entendirent la foule murmurer à propos, murmurer ses propos à son sujet. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter, qui est la menace qui pèse encore sur Jésus. Verset 40. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, ceci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Ça se passe pas bien pour Jésus à ce moment-là. En tout cas, relativement bien, disons. Jésus est bombardé de tous les côtés. Menaces, pressions, opinions, jugements. Mais malgré toute cette pression sociale, Jésus reste ferme pour faire la volonté de Dieu. Et avant d'aller justement vers le comment est-ce qu'on fait pour la supporter, je veux juste vous montrer pourquoi est-ce que Jésus subissait autant de pression. Et j'aimerais vous donner en fait deux raisons, vous proposer deux raisons à partir du texte, à partir du chapitre 7. Premièrement, pourquoi est-ce que Jésus subissait-il une si forte pression sociale? C'est parce que Jésus ne faisait pas les choses attendues de lui. Et un bon exemple qu'on a, c'est au début du chapitre, alors que ses frères l'incitent à aller à la fête pour se montrer en tant que faiseur de miracles, que prophète populaire. Et Jésus a refusé de faire les choses auxquelles ses frères s'attendaient de lui, finalement. Si tu veux faire la volonté de Dieu, je te prophétise que tu ne vas pas faire toutes les choses auxquelles s'attend la société. Je te le prophétise parce que c'est ce que Jésus a vécu. Et il nous dit qu'on va vivre les mêmes choses que lui. Jésus a dit à ses frères au verset 8, « Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore. » La majorité des gens s'attend à ce que tu couches avec ta blonde. Quant à toi, tu attends d'être marié pour le faire. La majorité des gens s'attend à ce que tu dévoiles ton corps sur les réseaux sociaux. Quant à toi, tu te préserves et tu préserves aussi du même coup ton prochain. La majorité des gens s'attend à ce que tu prennes un verre de trop pour faire la fête. Quant à toi, tu sais avoir du plaisir dans la modération. La majorité des gens s'attend à ce que tu regardes la pornographie, des films d'horreur. Quant à toi, tu préserves ton regard et ton cœur. Pourquoi est-ce que Jésus vivait autant de pression sociale? Parce qu'il ne faisait pas les choses attendues de lui, mais aussi, deuxièmement, parce qu'il faisait des choses inattendues. Il faisait des choses inattendues. Et l'exemple flagrant ici, c'est la guérison qu'il a fait le jour du sabbat. Une fois à la fête, Jésus va revenir sur cet événement-là, okay, parce que ça a eu lieu plusieurs mois avant. Donc, il va revenir là-dessus parce qu'il sait que ça a vraiment causé des émois à ce niveau-là. Donc, au verset 19, il dit ceci, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Et un peu plus loin, « Pourquoi vous irritez-vous contre moi? » Parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Donc, Jésus revient avec ce miracle qui a causé autant d'émois. Et le sabbat pour les religieux de l'époque était carrément devenu une culture. Les pharisiens, c'est vraiment une branche plutôt extrême juive à l'époque, et ils utilisaient la Mishnah. C'est un recueil de lois basé sur la Torah, donc sur les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Mais le problème, c'est qu'ils accordaient autant d'autorité à la Mishnah qui a été écrite par des hommes, juste des hommes sages, certes, mais qui n'a pas été inspirée par Dieu, donnée par Dieu. Il accordait autant d'autorité à ce recueil de lois-là qu'à la parole de Dieu, en fait, qu'à la loi de Dieu. D'où les règles strictes concernant le sabbat, cette loi que Dieu avait donnée pour que le peuple se repose une fois par semaine, un jour par semaine, donc en ne faisant pas de travail au champ. Mais la Mishnah, elle, va aller plus loin pour être sûre qu'on ne fasse rien du tout. La Mishnah va détailler une quarantaine d'activités, justement, qui sont interdites, le jour du sabbat. Et je vais vous donner mes préférés. Et si tu violais donc une de ces lois-là, ben c'était comme si tu violais la loi de Dieu. Je vous donne mes préférés. Le jour du sabbat, il était interdit de faire ou de défaire un nœud. Oh, pas facile la vie. Sinon, attention, tu vas te fatiguer, je crois bien. C'était aussi interdit d'écrire ou d'effacer plus de 2 signes. 1, c'est correct. 2, attention, attention. Et le meilleur, OK, c'était interdit le jour du sabbat d'allumer ou d'éteindre un feu. Alors, brûlons, les amis, c'est merveilleux. OK, vous voyez à quel point ça n'a pas vraiment de sens. Ça nous donne une idée à quel point le sabbat, c'est devenu plutôt comme une espèce de culture où ça s'éloignait vraiment du cœur de Dieu, en fait. Et Jésus va à l'encontre de cette culture-là, justement, ça fait tellement plus de sens, en faisant des choses complètement inattendues. Qu'est-ce que Jésus ferait de contre-culturel s'il vivait aujourd'hui? Il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce que tu es appelé à faire d'inattendu dans ce monde? Se lever le dimanche matin pour aller à l'église alors que les gens vont bruncher ou magasiner, honnêtement, c'est à contre-courant, carrément. C'est un acte de rébellion de nos jours. Donner une part de tes revenus à l'église, pour qu'elle fasse une œuvre de justice comme on a vu, alors que nous sommes la province, en passant, la moins généreuse au Canada. Les Québécois, on a dit non merci. C'est inviter tes amis à manger à la maison ou aider une famille dans le besoin alors qu'on est dans un monde qui est centré sur soi. C'est être rempli de joie et de paix alors que le monde sombre dans l'anxiété et l'apathie. C'est payer les taxes sur ta voiture que tu viens d'acheter alors que tout le monde met un montant X, un montant moindre pour ne pas payer de taxes à la SAC. Histoire vécue, on a acheté notre voiture, pour ceux qui savent, on a acheté notre nouvelle voiture et on se rend au garage pour acheter notre voiture et il faut mettre le montant quand tu vas à la SAC pour faire immatriculer ton véhicule. Tu dois dire à quel prix est-ce que tu as acheté ton véhicule et tout le monde, la grande majorité, 90% avec la réaction qu'on a vue du garagiste, je dirais 99% des gens vont mettre un montant ridicule, 500$, ben je l'ai acheté à 500$ pour payer des taxes sur 500$. Et là, nous, on a dit non, c'est la loi, là. On veut payer vraiment, c'était 5 000$, donc le calcul est un petit peu, c'est quand même exponentiel. Et là, il comprenait pas, il voulait quasiment pas, il a quasiment fallu qu'on le force. Il avait même préparé d'avance le contrat et il était écrit 500$. Il a fallu qu'il comme joue avec les lettres, les chiffres pour que ça donne 5 500. Et il nous l'a dit au moins 3-4 fois. Il a dit, ben voyons donc, il était comme en niaisant, il était comme en colère. Il disait, j'ai envie de vous étriper, voyons donc, cet argent-là, ça s'en va dans le gouvernement. Et soit dit en passant, cette taxe-là est ridicule parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement pas de conducteur, mais de propriétaire, le gouvernement se fait une taxe là-dessus. OK, bon, on peut en discuter, mais le gouvernement ne nous demande pas de valider les lois ou non. Il y a une loi, on la suit. Bon. À moins qu'elle contredise la parole de Dieu. Dans ce cas-là, malheureusement, c'était pas le cas. Donc, le gars, arrêtez pas de nous dire, il dit, sérieusement, ça a pas d'allure, ça, cet argent-là, il dit, je comprends pas. 3-4 fois, et c'est la dernière chose qu'il nous a dit quand on est parti du garage. Il a dit, j'ai encore envie de, en rigolant. OK, il avait jamais, de par sa réaction, il n'avait jamais vu quelqu'un faire ça. C'est fou, c'était inattendu pour lui. Tellement à contre-courant. Comme Jésus, nous sommes appelés à faire des choses inattendues, des choses qui sortent de l'ordinaire par leur amour, leur générosité, la justice, leur pureté, et ce, malgré la pression sociale. Amen? Amen? Êtes-vous d'accord? C'est pas facile. J'entends pas beaucoup d'amen, mais je vous garantis que par la foi, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Faire la volonté de Dieu, c'est toujours le meilleur chemin. Faire la volonté de Dieu, c'est toujours le meilleur chemin, mais ça amène pratiquement toujours une pression sociale. Parce que la volonté de Dieu est très souvent à contre-courant de la culture et de la société. Et je vais bien trop répondre à la question de savoir bien, comment la supporter, cette fameuse pression, mais pour savoir comment la supporter, qui est associée au fait de faire la volonté de Dieu, bien, on doit savoir d'abord discerner la volonté de Dieu. À travers toutes les voix que tu entends dans le monde qui mettent une pression, qui veulent t'influencer, comment faire pour discerner celle de Dieu? Et pour savoir comment faire, encore une fois, on va regarder à Jésus. Parce qu'à travers les voix de ses frères biologiques, des autorités religieuses, la foule qui avait toutes sortes d'opinions, Jésus a su reconnaître la voix de sa vraie famille, la voix de son père et la voix de ses frères et sœurs, ses vrais frères et sœurs. Jean 7, 16, 17. « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celle qui m'a envoyé, de Dieu, son Père. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire, mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a pas d'injustice en lui. » Jésus reconnaît la voix de son Père à travers tout le brouhaha. Jésus parle de l'enseignement qu'il a reçu de son Père. Et il dit ici que sa vraie famille, en fait, ses vrais frères et sœurs, c'est ceux qui veulent faire sa volonté. Et c'est ceux-là qui vont reconnaître, en fait, qui est vraiment Jésus. Jésus va faire observer le même principe dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 12, 46-50. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères biologiques, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui lui parlait « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis il tendit la main vers ses disciples et dit « Voici vers ses disciples. Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Jésus a su reconnaître la voix de sa vraie famille en obéissant pas dans ce cas-ci à ses frères biologiques qui disaient « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. » Et là, il l'explique encore « Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, et ça c'est le verset suivant, « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Pourquoi est-ce que Jean ajoute ici cette phrase-là? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est pour montrer à quel point ses frères sont dans le champ, carrément. Eux voulaient que Jésus se donne en spectacle en faisant des miracles, en enseignant, parce qu'ils pensent que Jésus cherche à être connu. Ils n'ont pas compris du tout la nature de Jésus et sa mission non plus. Pas du tout, ils sont dans le champ. Et Jésus dit « Non, je ne parle pas de ma propre initiative. » Regardez le contraste entre les deux discours. « Je ne cherche pas ma propre gloire. Moi, je veux rendre gloire à celui qui m'a envoyé, Dieu, mon Père. Alors non, je n'irai pas me donner en spectacle. Je ne ferai pas ce que vous me proposez, les gars. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. » Jésus a su discerner la voix de son Père et de ses vrais frères. À travers tout le vacarme. Et voici comment tu peux faire aussi. Voici comment tu peux faire. Deux choses que Jésus nous montre. Premièrement, si Jésus savait discerner la volonté de Dieu, c'est parce qu'il passait des heures et des heures dans la prière. Jésus est Dieu, OK? Au ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit vivaient une relation parfaite, la plus belle de tout l'univers. Communiquaient ensemble, ils discutaient ensemble, ils vivaient ensemble. C'est une relation, c'est trois personnes en un. C'est complexe à saisir, mais c'est quand même ça. Et dans son humanité, le moyen que Jésus devait utiliser pour communiquer avec son Père, c'est la prière. C'est la prière, c'est ce que Jésus a utilisé. Et regarde ici le brouhaha, la pression sociale, la pression de la vie qui s'exerçait sur Jésus et le choix qu'il a fait. Le choix de la prière dans tous les évangiles. Luc 5, 15, 16. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et être guéris par lui de leur maladie. Pression, 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 foule, brouhaha. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Matthieu 14, 21, 23. Ceux qui avaient mangé étaient environ, c'est quand Jésus vient de faire un miracle auprès de 5000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Okay? Pression, gens, personnes qui parlent, chaos, brouhaha. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. OK, les gars, allez-vous-en, je suis écœuré de vous voir. En gros, c'est ça que Jésus a dit. Là, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul, seul avec son Père, en train d'essayer de discerner la volonté de Dieu.
Amen.
Marc 1, 35, 37, vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. OK, donc ça, c'est ce que Jésus a fait. Mais là, le chaos à côté, les voix, la pression, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent alors à sa recherche. Quand il l'eut retrouvé, il dit, « Tout le monde te cherche! » Jésus s'est retiré alors qu'il y avait la pression partout. Tu veux discerner la volonté de Dieu et trouver la force d'accomplir de l'accomplir malgré la pression? Mets-toi à l'écart pour prier. Il va se révéler à toi jour après jour, se faire connaître à toi et faire connaître aussi sa volonté. Et l'autre élément que tu dois faire pour discerner la volonté de Dieu, la voix de Dieu, c'est par les Écritures, en lisant la parole de Dieu dans notre passage. Alors que Jésus se met à enseigner à Jérusalem durant la fête, voici ce que les autorités religieuses vont dire au verset 15. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus connaissait les Écritures et c'est à partir de ça qu'il enseignait. À quel point nous aussi, si Jésus connaissait les Écritures, à quel point nous aussi on a besoin de connaître les Écritures pour discerner la volonté de Dieu, pour être près de lui, pour le connaître. Et ce qui est intéressant dans la foule, c'est que il y a deux types de personnes. Ceux qui semblent connaître Jésus, mais pas les Écritures. Et à l'inverse, ceux qui connaissent les Écritures, mais pas Jésus. OK? Voici ceux qui semblent connaître Jésus, mais pas les Écritures. C'est un peu mêlant, non? OK, c'est clair, moi. Je m'écoute plus, je ne sais plus trop. Bon, voici ceux qui semblaient donc connaître Jésus, mais pas les Écritures. Verset 25. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qui cherche à faire mourir? » Le voici qui parle librement, et ils ne lui disent rien. Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Explication? C'est la dernière phrase qui est importante. À l'époque, OK, alors que les Juifs attendaient le Messie, il y avait une tradition populaire voulant que le Messie apparaîtrait soudainement. En fait, on ne saurait pas d'où il vient. Pourtant, il y a une prophétie vraiment claire du prophète Michée qui dit totalement le contraire. Michée 5, 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » À l'éternité. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et ces gens dans la foule semblent donc connaître Jésus parce qu'ils disent, « Ben là, on sait d'où il vient. » Mais ils ne connaissent pas les Écritures, en fait. Et à l'inverse, voici ceux qui connaissent les Écritures, mais pas Jésus. Verset 40. « Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Messie. » Mais d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? » L'Écriture ne dit-il pas que c'est de la descendance de David, du village de Bethléem, où était David, que le Messie doit venir. Donc, eux connaissaient les Écritures. Bravo, les gars, c'est génial. Ils savent que le Messie doit venir de Bethléem. Mais est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange? Ils disent aussi, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? Ils pensent que Jésus vient de Nazareth en Galilée, parce que c'est là que Jésus a vécu son enfance. Mais nous savons que Jésus est né à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas, en fait, que Jésus est vraiment né à Bethléem, qu'il ne vient pas, qu'il n'est pas né à Nazareth. Donc, ils connaissent les Écritures, mais ils ne connaissent pas vraiment Jésus. Et les chefs religieux aussi, les chefs juifs, c'est la même chose. Ils connaissent parfaitement les Écritures. Ils les ont étudiées depuis qu'ils étaient jeunes, mais pourtant, Jésus leur dit au verset 19, « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. En d'autres termes, ils connaissent la loi, mais pas celui qui a donné la loi. Ils connaissent les Écritures, mais ne comprennent pas le sens profond comme ils ont fait avec le sabbat. Et toi, de quel groupe fais-tu partie dans la foule? De ceux qui semblent connaître Jésus, mais ne connaissent pas la Bible? De ceux qui connaissent la Bible, mais pas Jésus? Ou des disciples? Si tu fais partie du premier groupe, laisse-moi te dire que tu passes à côté de quelque chose. Si tu as déjà vécu une expérience avec Jésus par le passé, mais que tu n'alimentes pas ta communion avec lui par la prière, par la lecture de la parole, tu vas toujours rester au niveau superficiel de ta relation avec lui. C'est ce qu'on a vu avec le dernier message. Et quand la pression sociale et les voix partout autour de toi vont commencer à s'élever, je te garantis que ça va être très difficile, premièrement, de discerner la voix de Dieu, ce qui est bien ou mal, mais deuxièmement aussi d'avoir la force d'y résister, d'avoir, pas d'y résister, au contraire, d'avoir la force de l'accomplir, pardon. Et si tu fais partie du deuxième groupe, ceux qui connaissent la parole, mais pas Jésus, laisse-moi te dire que tu manques le meilleur. C'est pas juste intellectuel, c'est une relation de cœur qu'on doit vivre avec Jésus. Tu passes à côté du plus important, c'est Jésus lui-même, ta relation avec lui. C'est avec ceux qui connaissaient le plus les Écritures que Jésus a été le plus sévère. C'est même eux qui l'ont crucifié, carrément. Donc, c'est pas parce qu'ils connaissaient que leur cœur était ouvert vers Jésus. Ne laisse jamais ta connaissance des Écritures refroidir ton cœur et t'empêcher de voir l'auteur derrière la Bible. Mais il y a un troisième groupe dans la foule et ce sont les disciples de Jésus. Et je veux en rassurer quelques-uns ce matin. La plupart des disciples, des fois, il y en a qui voient vraiment la communion avec Dieu, avec Jésus, les disciplines au sens où la prière, la Bible, comme vraiment une montagne. Sur 12 personnes que Jésus a choisies pour bâtir son Église, qui est encore vivante après 2000 ans, au moins 5 d'entre eux, on sait qu'ils étaient pêcheurs, des pêcheurs de poissons. En gros, là, des gars qui montaient les lignes d'hydro, ou qui travaillait à la papeterie à Clermont. Jésus, il n'a pas choisi les chefs religieux qui connaissaient les Écritures par cœur. Il n'a pas choisi des universitaires, des chefs d'entreprise. Il a choisi des gens qui étaient prêts à le suivre, qui avaient soif d'apprendre auprès de leur maître, tout simplement, tout simplement. Et ça me rappelle la phrase que j'ai dit à mes parents avant mon premier jour d'école. Je leur ai dit... Bien, je peux pas aller à l'école, ça me fait trop peur parce que je sais rien, parce que je connais rien. J'avais deux grandes sœurs, fait que pour moi, ceux qui allaient à l'école, bien, c'était les gens connaissants, parce que mes sœurs, mes grandes sœurs allaient à l'école. Mais non, l'école, c'est l'endroit où on apprend. C'est là où on apprend. Et Jésus se cherche seulement des gens qui sont prêts à aller à l'école, à son école, à lui. Tu n'as pas besoin d'études universitaires pour lire ta Bible. Tu dois seulement être disponible, prendre du temps pour te mettre à ses pieds, aux pieds de Jésus, ouvrir la Bible, lire des petites portions, poser des questions, prier, développer une soif pour le connaître davantage. Et si tu n'aimes pas lire, en passant, tu peux l'écouter. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté la Bible. Mais dans le temps aussi, les rabbins parlaient. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient comme illettrées, en fait. Aussi dans le Moyen Âge, les gens étaient illettrés, donc ils voyaient les peintures, les fresques à l'Église catholique, etc. Donc, il y a toutes sortes de moyens qu'on peut faire. Vous n'êtes pas illettré, mais si tu n'aimes pas lire, je peux comprendre. Tu peux écouter la parole. C'est quelque chose qui a été fait depuis des centaines d'années. Avec tous les outils qui existent aujourd'hui, on peut vraiment trouver le moyen. Si tu as soif de Jésus, tu peux le faire. Finalement, troisième et dernière question à laquelle je veux répondre ce matin, on arrive à notre question de feu. Maintenant que tu sais comment reconnaître la voix de Dieu, qui est très souvent à contre-courant de la société, comment supporter cette pression quand on obéit à Dieu? C'est au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est par l'esprit, c'est par Jésus qui habite en toi que tu vas trouver la force de supporter les pressions extérieures. En fait, le point précédent, il est directement relié à celui-là. Parce que Jésus nous dit que celui qui a soif et va à lui, va se ressourcer et va être rempli de son esprit. Tu vas être capable de supporter la pression sociale, de faire ce qui est juste, même si c'est différent, grâce à l'esprit, grâce à Jésus qui vit en toi, par la force que Jésus te donne, par la confiance que tu lui portes, par ton attachement à lui, par ta communion avec lui. Jésus a eu la force de tenir tête à ses frères. On peut dire bonjour à nos amis. Bonjour. Pas de problème.
Bonjour.
Bonne journée. Vous êtes pardonnés. Toutes pardonnées. Jésus, juste pour vous donner un... Allons-y avec le contexte. Julien, quand il est arrivé ce matin, il y avait des tables installées. Donc, je pense qu'il y avait une préparation de fête ou quoi que ce soit. Qui sait? Voilà, donc ils sont partis avec leur crudité. C'est merveilleux. Soyez bénis. je termine le message. Jésus a eu la force de tenir tête à ses frères en ne faisant pas ce qui était attendu de lui. OK? Restez avec moi. Il a eu la force de supporter la pression sociale. Si on retourne une dernière fois à notre texte, OK, juste regardez maintenant, regardez comment Jésus a réagi face à ses frères. Portez attention à l'attitude de Jésus. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. » Et il dit, « Non, je ne viendrai pas avec vous. » Et là, il explique, « Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste. Parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. » Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Devant la pression, Jésus, il ne s'est pas caché. Jésus n'a pas dévié du sujet. Il ne s'est pas mis en colère après ses frères. Il ne s'est pas montré arrogant contre ses frères. Et toutes ces choses-là, c'est peut-être des choses qu'on peut avoir tendance à faire quand on vit la pression sociale. Mais non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a géré la pression parfaitement. Jésus a expliqué à ses frères pourquoi il ne voulait pas aller à la fête. Il leur a expliqué calmement. Il respecte aussi leur choix parce qu'il dit, « Vous, allez-y. » Il respecte leur choix. Tout en se montrant ferme dans sa décision, « Quant à moi, je n'irai pas. » Et ça, là, c'est parfaitement bien géré comme pression sociale. On peut prendre exemple sur Jésus pour ça. Et c'est l'Esprit qui va te donner la force. C'est Jésus en toi, l'Esprit qui va te donner cette force-là de supporter la pression sociale de la bonne façon quand Dieu va te demander de t'abstenir de certaines choses. Et il va te donner aussi la force et l'inspiration pour être capable de supporter aussi l'opposition, d'expliquer tes décisions avec amour, mais fermeté. Parce qu'on a un esprit, on n'a pas un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Ça n'a pas l'air d'aller ensemble, mais ça va ensemble, de force, d'amour et de sagesse. Mais c'est pas tout. Ce qui est spécial avec le passage, c'est que Jésus a été rempli aussi de force, non seulement pour faire face à la pression de ses frères, mais aussi pour faire un geste courageux, inattendu. Rappelez-vous comment le chapitre 7 commence. Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchait à le faire mourir, mais pourtant Jésus a fini par aller à la fête, alors que ça commence comme ça. Il a eu autant la force de refuser d'y aller malgré la pression sociale de ses frères, mais il a eu aussi autant la force d'y aller malgré la menace des Juifs. C'est fou! L'Esprit va te donner la force quand tu devras t'abstenir de certaines choses. Mais à l'inverse, il va aussi te donner la force de faire des choses différentes qui sortent de l'ordinaire. Il va te donner le courage et la force de le faire. Mais quoi que tu fasses, que Dieu te demande de t'abstenir ou de faire quelque chose pour lui, Jésus va être avec toi par son esprit, qui va couler en toi si tu vas à lui te ressourcer jour après jour. Je veux juste rappeler, pendant que les musiciens s'avancent, le verset 37, que Jésus a dit, c'est vraiment une clé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je voyais vraiment aujourd'hui la réunion, l'Église, comme une source de vie, en fait. On va se ressourcer à Jésus. Et tu peux y aller aussi par ta communion, jour après jour, aller te ressourcer à lui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Des fleuves d'eau vive coulent de lui. C'est une source d'eau qui coule. La source de la vie. Et Jean n'a pas seulement écrit l'Évangile, il a aussi écrit un autre livre, entre autres. Lequel? L'Apocalypse? Les Épîtres? Mais il a écrit aussi l'Apocalypse de Jean. Et dans ses écrits, en fait, où c'est Jésus qui se révèle à lui, il est écrit ceci au verset 21, au chapitre 21, verset 5. « Celui qui était assis sur le trône, c'est Dieu, et dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il sera mon fils. Si tu as soif ce matin, une soif de la vraie vie, si tu n'as jamais connu quelle était la vraie vie, tu peux aller à Dieu, tu peux aller à Jésus qui va te donner l'eau de vie et qui va faire de toi son fils ou sa fille. Tu deviens enfant de Dieu si tu viens à cette source pour trouver la véritable vie. Si ton âme soif, va à Jésus ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Ceux qui ont soif, lève ta main. Ceux qui ont soif de plus de Jésus. Et au verset 22, au chapitre 22, pardon, Jean continue. C'est un ange qui lui parle, qui lui montre des choses et il va dire, et il écrit ceci. Il me montra le fleuve d'eau de la vie. J'en vois la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, c'est nous, se lui rendrons un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Ça se peut qu'en ce moment, tu n'as pas l'impression de régner du tout, là. Ça se peut qu'en ce moment, tu sois complètement bombardé par la pression de l'eau qui est à contre-courant. Ça se peut que ce soit difficile pour toi de marcher selon la volonté de Dieu. Et que tu sentes vraiment la pression de l'eau. Tu es complètement à contre-courant, puis des fois, oh, tu te laisses emporter par le courant. Mais j'aimerais dire que le vrai courant, le vrai, vrai fleuve de Dieu, de vie, c'est Dieu. C'est son esprit, c'est lui. Le seul vrai fleuve qui donne la vie, qui ressource, c'est Dieu. Prends courage ce matin, prends courage et porte ton espérance sur ce qui s'en vient. Et c'est là que tu vas voir le fleuve un jour et nous allons régner. Peut-être que tu as l'impression, en ce moment, quand tu es à contre-courant, tu n'as pas l'impression du tout de régner, tu as l'impression d'être dominé par les autres, tu as l'impression de vivre du rejet, tu as l'impression que ça ne marche pas du tout ton affaire. Mais un jour, nous régnerons au siècle des siècles. C'est lui le véritable fleuve de vie qui donne la vie. Amen. Je veux vous inviter, prions, levons-nous et on va prier ensemble avant d'entrer dans ce dernier chant. Ah, Seigneur Jésus, je te prie pour ton esprit. Viens remplir nos cœurs et nos esprits, Seigneur. Je te prie pour ton esprit pour que tu puisses remplir nos vases qui sont vides, peut-être. Ceux qui ont l'impression de marcher dans le désert, Seigneur, tu nous as montré par ta parole que tu pouvais faire jaillir un fleuve d'une pierre, d'une roche. Seigneur, alors ceux qui sentent qu'ils sont en train de marcher dans le désert, montre-leur la source d'eau de vie que tu es, Seigneur Jésus. Que ceux qui ont soif aillent à toi, Jésus, qu'ils comprennent, Seigneur, par ton esprit, que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Que tu traces des chemins dans le désert, des fleuves d'eau vive, Seigneur. Et qu'un jour, on va pouvoir s'y plonger pleinement, Seigneur, pour l'éternité. Ah, viens remplir, Seigneur, ce matin les cœurs de tes enfants.